Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Emma et nous sommes le mardi 25 mai 2021 avec le temps plein. Qui il y a aujourd'hui en studio avec nous ?
Cléa.
Gabrielle.
Oui.
Mélina.
Léa.
Alice.
Linda.
Et Pauline. Alors aujourd'hui, on est ravis de recevoir une collègue, puisqu'elle est marseillaise, qu'elle a fait ses études de médecine à l'université d'Aix-Marseille et qu'elle a même intégré la première équipe mixte de football de l'OM. Bon, plus récemment, elle a été la première femme maire de Marseille au terme d'une élection épique qui a soulevé tout Marseille le 4 juillet dernier. Ce moment historique a aussi été suivi par la France entière. Au bout de 5 mois, elle a cédé sa place à Benoît Payan, qui est l'actuel maire de Marseille. Elle est devenue sa première adjointe. Donc, on accueille aujourd'hui Michèle Rubirola. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à Radio Emma. Pour compléter cette petite présentation, Michèle Rubirola aussi quelqu'un de très engagé pour les causes à la fois féministes, écologistes et sociales, où il lui tient à cœur de venir en aide aux personnes vulnérables, que ce soit par la maladie ou par la précarité sociale. Par exemple, elle est membre de l'association Habitat Alternatif Social qui cherche des logements aux personnes exclues, qu'elles soient handicapées, séropositives ou atteintes de maladies mentales. Mais elle est aussi présidente de l'association Europe Social Projet Recherche Innovation qui travaille avec les personnes vivant dans la rue. Voilà, vous avez toutes les facettes de la même personne que nous recevons aujourd'hui. C'est donc Michèle Rubirola. Alors, nous allons vous poser un tas de questions sur votre parcours, qui est à la fois riche et rempli d'un intérêt visiblement permanent pour le soin apporté aux autres.
C'est cela.
Donc, ça nous intéresse d'en savoir plus. Cléa, tu peux poser la première question.
Dans quelle ville êtes-vous née et où avez-vous grandi ?
Moi, j'ai pas beaucoup bougé. Je suis née à Marseille, j'ai grandi à Marseille et j'espère continuer à vivre à Marseille.
Eh bien, une Marseillaise. Pour le coup, ce que j'ai lu quelque part, et dites-moi si je me trompe, j'ai lu que vous aviez été élevée par votre grand-mère. C'est juste ?
C'est juste, oui.
Est-ce que ça a été une occasion de transmission, tant au niveau de la culture familiale, au niveau de, je sais pas, des traditions culinaires ? Est-ce que ça a été l'occasion d'une transmission d'être élevée par sa grand-mère ?
Être élevée par ma grand-mère, déjà, ça m'a sensibilisée justement aux soins, à prendre soin des autres. Parce que d'abord, ma grand-mère prenait vraiment soin de moi avec le peu de moyens qu'elle avait. Et puis moi, c'était aussi une attention puisque je l'aidais parce qu'elle était quand même assez âgée. Et ce qu'elle m'a apporté, c'est surtout la culture italienne, parce que ma grand-mère venait de Naples. Bon, elle ne parlait pas très bien français, mais enfin, elle m'a donné l'amour de l'Italie, et vraiment, et encore plus, l'amour des Napolitains, qui sont souvent décriés, alors que quand j'y suis allée, j'ai trouvé une ville merveilleuse et des gens adorables.
Extraordinaire. Mais c'est ça aussi, la passation des cultures, qui est magnifique. Quand est-ce que vous êtes allée à Naples pour la première fois ?
Oh, je suis allée à Naples il n'y a pas très longtemps. Je suis allée à Naples il y a 7 ans.
Pour la première fois ?
Oui, pour la première fois, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup voyagé, puisque j'ai très vite travaillé. Et quand on est médecin, on peut pas prendre beaucoup de vacances. Et puis après, j'ai eu des enfants. Et puis après, je pouvais pas partir. Et j'ai attendu que mes enfants soient assez grands pour qu'on puisse partir en famille, retrouver nos racines.
Mais ouais. C'est magnifique. Alors, quel effet ça vous a fait ?
Ah, écoutez, ça a été beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions dans cette ville, je vous disais, qui était décriée. On m'a dit, fais attention quand tu vas aller à Naples. Donc, j'avais pris un logement chez l'habitant.
Ah oui.
Ouais. Et on s'est retrouvés là en famille avec des gens fabuleux. Alors au début, c'était un peu rigolo parce que nous, on prenait le bus et on était les seuls à payer le bus.
Ah bon ?
Donc après, on s'est mis un peu à la culture napolitaine. On a fait comme eux parce qu'on s'est dit, c'est pas possible. Et quand on s'est placé en voiture, je me rappelle, on s'était perdu. On a demandé notre route et les gens se sont détournés pour nous conduire. Alors que bon, ils ne savaient pas d'où on était, tout ça. Et ça a fait ça 2 fois. Et j'ai été emballée par cette ville. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que, en fait, j'ai vu des palais qui étaient rénovés. Et des palais qui étaient rénovés pour mettre des gens en difficulté. C'était des gens, j'ai vu des CHRS dans des magnifiques palais qui avaient été rénovés au centre de Naples. À tel point que mon fils, qui était un peu plus jeune, il m'a dit oh, « Maman, tu veux faire du social aussi en vacances ?»
Ah voilà. Ça ne vous quitte pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont allés en Italie, parmi les filles ?
Moi.
Ah, où est-ce que tu as été ?
À Rome.
Ouais.
Venise. Florence.
Ah bah ça va. Les belles villes, magnifiques.
Ouais.
Ça t'a plu l'Italie ?
Ouais.
Ouais. Alice aussi, j'ai l'impression ?
En fait, j'y suis pas allée, mais je parle italien.
Ah ! Comment ça se fait ?
Parce qu'à l'école, on fait un international italien au lieu d'anglais.
D'accord, fabuleux. Merci en tout cas déjà pour ce début très intéressant et très imagé. Déjà, oui Léa ?
Non, Linda.
Linda, pardon.
Oui, c'est parce que moi, je suis née en Italie aussi.
Mais non ! Où ça ?
À Florence.
Mais non ! Bon, alors on va faire une émission, ce sera toi l'invité, parce que ça m'intéresse beaucoup. Non, tu as grandi jusqu'à quel âge?
Non, je suis restée quelques mois, enfin je suis née et après on m'a ramenée en Chine.
Direct, d'accord. Ouais. Donc t'as pas de souvenirs, t'as pas de... Mais ça te fait quelque chose de savoir que t'es née à Florence?
Ouais.
Ça te fait
parce
quoi?
Parce que c'est quand même bizarre, parce que d'origine je suis chinoise, ouais, mais je vis en France et je suis née en Italie.
Ça commence super bien, j'adore. Un super bagage. Merci. Allez, bon, on va s'écouter. Alors, une petite chanson, c'est la programmation de Michèle Rubirola elle-même. C'est Julien Clerc qui chante donc « Laissez entrer le soleil », qui vient de la fameuse comédie musicale « Hair ». Est-ce que ça vous évoque des souvenirs?
Julien Clerc, ça a été un moment décisif pour moi, surtout la comédie musicale « Hair », ce qu'elle voulait dire, surtout à mon époque. Bon, j'avais 12-13 ans et puis tout le monde était, on va dire, un peu standardisé. Claude François, les pantalons serrés, les petits kékés. Et puis, moi, ce qui me plaisait, c'était la liberté, être différent. Et puis Julien Clerc est arrivé avec ses cheveux longs et ses peaux de mouton et disait qu'il fallait vivre libre et heureux, loin de tout, voilà. Et laisser entrer le soleil au fond de notre cœur. Et moi, ça a été une révélation pour moi. Et depuis, j'ai toujours une passion pour lui, même s'il a des moments où il y a des chansons qui ne me plaisent pas trop. Mais lui, il me plaît par rapport à ce qu'il a créé en moi et vers quoi il m'a entraînée, en fait. D'un coup, je n'étais plus tout à fait comme la majorité des gens, des jeunes de mon époque.
Mais alors, c'est parfait parce que ça introduira notre deuxième question après la chanson. Et merci beaucoup pour cette introduction à cette chanson. On y va. Julien Clerc, Laissez entrer le soleil, c'est parti sur Radio Emma avec Michèle Rubirola.
On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent. Tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude. Savoir si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard. Je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Silence me répond en secret. Burger, j'ai l'impression de mourir.
L'autre, l'autre, l'autre.
Chester, England, England. Manchester, England, England. Au bout de l'Atlantique, je suis un génie.
Yeah.
Julien Clerc, laissez entrer le soleil, mais quel moment! En plus, Michel qui nous agite les mains et qui connaît les paroles par cœur. Donc on est de retour sur Radio Emma avec Michel Rubirola qui est là pour échanger avec les ados. Et Gabriel, je te laisse poser donc la deuxième question.
Quel genre d'ado étiez-vous?
Oula, je crois que mes parents disaient que j'étais pas très facile.
Ah ah.
Ben oui, j'étais un peu rebelle, c'est vrai. J'aimais pas trop travailler. J'aimais faire ce que j'avais envie de faire et puis j'avais un père très sévère. Donc j'étais quand même pas mal en opposition avec mes parents. Ça a créé un petit peu des frictions, pas mal de frictions. Bah, c'était une étape qui est passée, mais avec pas mal de difficultés entre mes parents et moi.
C'est-à-dire que ça se passait avec un conflit de génération?
Alors mes parents, ils n'étaient pas du tout traditionnels, hein, puisqu'ils m'ont ouvert vers ce que je suis quand même. Ils m'ont amené vers toutes les luttes contre les injustices sociales. Mes parents étaient très engagés dans les milieux politiques. Mais en fait, comme on venait d'un milieu très populaire, mon père voulait que je travaille beaucoup à l'école, que je sois très sérieuse, que je ne pense pas à m'amuser, que voilà, je ne pense pas aux garçons, que je pense pas que je ne demande pas à sortir. Et bon, à un certain âge, il y a d'autres choses qui trottent dans la tête plutôt que de travailler. Donc ça a été plutôt pour ça. Et mon père me disait toujours qu'il fallait compter sur ses propres forces, donc il fallait que je sois indépendante, que je dépende. Voilà. Donc pour ça, il fallait travailler.
D'accord. Donc à la fois une éducation assez stricte, mais pour des valeurs assez fortes.
Ah oui, parce qu'il fallait que je dépende, surtout pas dépendre d'un homme, ou d'une femme, n'importe quoi.
De quelqu'un en tout cas.
Il fallait que je sois autonome.
Ouais.
Voilà. Autonome.
Indépendante, autonome.
Et mon père m'a dit, parce que mon père était dans l'extrême gauche, tout le monde le sait, donc je ne vais pas le cacher, il m'avait dit que Mao Tse-Tung avait dit que la moitié du ciel appartenait aux femmes, mais c'était à elles de le conquérir. Et il m'a élevé comme ça, il fallait toujours faire effort pour toujours s'en sortir et rester fidèle à ses valeurs. Donc, alors c'est vrai, il était comme ça. Mais il fallait que je travaille. Et puis il avait peur que beaucoup de personnes me fassent du mal, donc il m'interdisait tout. Et moi, quand on m'interdisait, ben, c'était pas possible.
Il fallait faire l'inverse.
Il fallait faire l'inverse.
Vous avez fait le mur beaucoup, Michel Rubirola?
Ah, je suis carrément partie, oui. Je suis partie de la maison. Oui.
On va tout savoir aujourd'hui.
Oui, oui. Je suis partie un samedi matin avec mon sac, avec l'insigne de la paix derrière. Je suis allée voir ma prof de philo parce que je m'entendais bien et je dis je m'en vais.
Fugue.
Ah oui, je suis partie. J'ai brûlé mon carnet de correspondance sur la plage de Menton. Et je suis partie à travers le tunnel qui débouche en Italie.
Allez, oui. Mais quoi, en stop ou comment?
En stop, oui.
Waouh. Et sans prévenir, bien sûr, personne.
Non.
Sinon, ce serait pas drôle.
Ce serait pas drôle.
Pendant que tout le monde s'inquiète à la maison.
Mais quand même, mon père avait arrêté de fumer juste avant. Et j'avais dit, papa, s'il te plaît, ne recommence pas à fumer. Quand j'étais partie, j'avais laissé ce petit mot.
Ah oh. Et alors, ça a duré combien de temps, cette escapade?
Une semaine.
Et est-ce que ça a été une semaine folle de découvertes, de sentiments de liberté incroyables ou un peu de culpabilité?
Je n'ai pas culpabilisé du tout. Non, c'était bientôt la fête des mères. Alors, ça m'embêtait un petit peu parce que je disais, je ne serais pas là pour la fête de maman. Alors, je me disais, ah mince, le 1er mai, puisque c'était à ce moment-là, je ne fais pas le tournoi de basket à Rousset parce que ça me plaisait aussi. Le problème, c'est que j'aimais faire plein de choses. Alors, je dis, ben, je suis partie, mais je ne peux pas faire le tournoi de basket à Rousset. Et puis, ben non, ça a été une semaine à faire la manche. Puis, j'avais rencontré une vieille dame qui tenait un bar, qui m'avait pris sous sa protection. Et puis, voilà.
Oui. Incroyable. Et seule, vous êtes partie?
Avec un gars.
Ah, quand même. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à revenir?
La police qui m'a rattrapée. Oui.
Ah,
non.
On est dans les vraies histoires, là.
Eh oui,
les vrais dossiers.
Ils m'ont retrouvée sur le port de la Spezia. Je faisais des bijoux avec mon compagnon. Et ils m'ont dit, contrôle d'identité. Mais j'avais plus de papier, je les avais brûlés.
Alors là, vous avez quel âge?
17 ans.
17 ans. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans.
Exactement. Et j'ai toujours ça dans ma tête.
Ouais.
Voilà.
Dingue. Et les bijoux comme ceux qu'on voit effectivement dans les plages, même au bout du monde. Enfin, il y a toujours des gens pour faire des bijoux.
Voilà. j'ai appris à faire les bijoux.
Excellent. Et la police vous retrouve parce que quoi? Parce que vos parents...
Mon père avait fait avis de recherche.
Ça vous inspire quelque chose ou pas, les filles?
Moi, ça me donne envie de partir.
Qui est venu aujourd'hui, Michel Rubirola? Bah ouais, depuis, j'ai fait une fugue. C'est elle qui m'a donné envie.
Parce qu'un jour, en fait, j'ai essayé. Mais comme j'avais pas de sous, du coup, je suis partie. Mais j'étais obligée de faire demi-tour parce que je pouvais rien faire. Je pouvais même pas prendre le train parce que...
Donc, en fait,
et j'allais pas faire de l'autostop parce que j'ai super peur qu'on me kidnappe. Du coup,
tu as raison.
Tu as raison.
Mais moi, je suis partie avec un garçon, j'avais un peu confiance.
Ouais.
Mais là...
Pourquoi toi, tu voulais partir?
Parce que, je sais pas, dans ma vie, c'était toujours la même chose. Et du coup, ça m'avait saoulée. Et je me suis dit, c'est bon, personne ne veut que je fasse ce que je veux. Du coup, j'ai fait un snack et...
Et pourquoi t'es partie seule?
Non, j'étais avec une copine.
Ah, d'accord, quand même.
Ouais.
Mais vous êtes confrontées toutes les deux au dur mur de la réalité.
Oui.
Sans argent, tu peux pas être très loin. Bon, non. Ok. T'as regretté ou pas de pas être allée au bout du truc?
Oui.
Ouais.
Ouais.
Bon, ouais, après, tu pourras, en grandissant encore plus, de plus en plus en tout cas, prendre ton indépendance et ton autonomie.
Ouais.
Sans fuguer, ce qui est pas mal. Waouh, en tout cas, quel moment d'histoire. Mais ça, c'est génial. Mmh. Est-ce que, si on reprend la question de quel genre d'ado étiez-vous, alors on a compris, en rébellion, etc. Mais est-ce que vous étiez aussi d'une nature plutôt sociable ou plutôt réservée? Est-ce que vous étiez entourée? Comment ça se passait à l'école? Ou dans la vie en général, d'ailleurs.
Malheureusement, j'étais en terminale C, scientifique, et j'ai trouvé que toutes les filles, elles étaient pas sympas. Puis j'étais dans un lycée de filles à l'époque.
Et oui.
Il y avait quelques garçons qui sont arrivés en première, mais je trouvais que les filles de terminale C, elles étaient pas intéressantes, parce qu'elles étaient toujours les premières de la classe. Et moi, j'étais vraiment très, très révoltée. Hein. J'étais au fond de la classe, et je les trouvais bêtes. Elles s'intéressaient à rien. Nous, on avait un club guitare, donc j'étais au club guitare du lycée, mais il n'y avait pas trop de filles de ma classe qui étaient au club guitare. Voilà. Mais ouais. J'avais des copines, hein. J'avais quelques copines.
Mmh. On sent une personnalité passionnée, vraiment éprise de ce sentiment de liberté, mais c'est aussi souvent l'âge où ça se passe. Donc il n'y avait pas autour de vous des gens qui étaient épris du même sentiment?
Si, on était un groupe de quatre.
D'accord.
Ouais, quatre bien liés.
Ouais.
Et il n'y a que moi qui passais le pas de partir.
Allez. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous êtes revenus?
Ben, ils avaient rien. Enfin, mes copines étaient contentes de me revoir.
Ouais.
Et mon père avait interdit à quiconque de me poser des questions. Il m'avait fait un mot d'absence en disant que j'avais été fatiguée. Alors je suis arrivée très bronzée en Italie, plus soleil. Ouais.
Ça l'a touché que vous alliez en Italie quand même ou pas?
Mon père?
Ben oui.
Ben, je crois que je ne sais pas. Il en a jamais parlé. Simplement, quand il m'a retrouvée, il m'a dit Nema Utsetungadi. Ça, il dit toujours, devant toute expérience, même négative, il faut chercher le positif. Donc, je vais me remettre en question. Et depuis, il a changé du tout au tout. Ah ouais, c'était la grande force de mon père, la capacité de se remettre en question.
Et moi, puis même, c'est-à-dire que le geste que vous avez eu, qui était très rebelle, lui a transformé sa vie aussi.
Oui. Et quand je suis partie en camp d'ado, parce qu'il m'interdisait de partir en colo, c'est pour ça qu'il m'interdisait tout, mon père. Il avait peur pour moi, il avait très peur pour moi, en fait. Et l'été, j'ai voulu partir en camp d'ado. Il m'a donné une autorisation de sortie du territoire. Comme quoi il me faisait confiance. Et ça, c'est extraordinaire de réagir comme ça. Parce que dans ma famille, d'origine napolitaine, ils avaient dit qu'il faut la mettre en pension. Et voilà. Et j'ai jamais été en pension.
Eh ben,
ah ouais, non,
quel
j'avais
parcours.
Un super papa.
Magnifique.
Ouais.
Et magnifique hommage. Est-ce que, Mélina, tu te sens de lire la troisième question?
Comment avez-vous décidé de faire du sport?
Le sport a l'air d'avoir une place importante dans votre vie.
Oui, parce que comme vous avez vu, j'ai été élevée par ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'était pas très rigolo quand même, parce qu'on faisait pas grand-chose. Donc dès que j'ai pu faire du sport, j'ai intégré une équipe de basket. Parce que mes parents étaient basketteurs, ils se sont rencontrés. Et puis moi, j'aimais ce sport-là. Ils m'ont pas forcé du tout.
Mais ils se sont rencontrés en faisant du basket?
Oui. Il était arbitre, ma mère était joueuse, et ils se sont rencontrés. Voilà. Donc moi, je suis allée jouer au basket et ça a été une passion, oui.
Et alors, aussi intégrer la première équipe féminine de l'OM.
Oui. Oui,
qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je m'entraînais à l'époque, c'était le jeudi. Et puis après, il y a une équipe féminine de l'OM qui s'est montée, qui s'entraînait le soir à 17h. Donc après le basket, j'allais m'entraîner au stade de Luvonne, qui n'existe plus. Maintenant, il y a des immeubles à la place. Et je me suis entraînée. J'étais ailier gauche. Et je me rappelle, c'était super.
Mais alors, qu'est-ce qui vous poussait à faire autant de sport, du coup? Parce que basket, foot...
J'aime beaucoup bouger. Vraiment, j'ai une passion pour le sport. J'aurais aimé être prof de sport.
Ah.
Mais j'avais un handicap. J'étais dans un lycée de jeunes filles. Et le sport, pour les jeunes filles, n'était pas poussé comme il fallait. Et j'avais des profs de sport très, très, très âgés qui ne nous ont pas poussé à pouvoir développer des capacités. Donc le basket, je l'ai fait parce que j'étais en dehors du lycée. Mais si je m'étais contentée du sport au lycée, c'était pas top, quoi.
Ça te fait réagir, Cléa ou Léa? Ça vous fait réagir, ça, le sport et les vieilles attitudes de l'époque?
Ben, c'est vrai que moi, personnellement, les professeurs de sport que j'ai connus, ils poussent pas non plus trop les filles. Alors, soit il y a les extrêmes qui poussent pas, soit il y a les extrêmes qui, oui, vous êtes des filles, il faut avoir un beau corps, et qui poussent énormément.
Ah, oui.
C'est les deux extrêmes.
Eh ben.
Donc après, c'est difficile de se situer parmi ces deux positionnements.
Ben ouais, je comprends. Toi, Pauline, je crois que tu faisais un petit peu quelque chose.
Oui, je faisais de l'équitation. Ouais. Oui, mais je veux dire, j'ai pas de galop, tout ça. Enfin, j'en faisais pour le loisir.
Oui, bien sûr. Ah bah, de toute façon, on n'est pas forcément au niveau de la compétition quand on fait du sport. Mais ceci dit, à propos de compétition, vous en avez fait ?
Oui.
Du coup, ah, et alors ?
J'adorais ça.
C'était stimulant. Oui,
c'est stimulant.
C'était pas inhibant, c'était pas le fait d'être écrasé par la compète, au contraire.
Bah, c'est-à-dire, c'est collectif. Moi, j'aurais jamais fait de compétition toute seule en individuel, c'était pas mon truc. Moi, c'était le collectif qui me plaisait, ça m'a toujours plu, le collectif. Donc, j'aimais bien, on avait une équipe, on s'entendait bien. Mm-hmm. On partait ensemble, les déplacements, on rigolait bien.
Ah bah, magnifique. Allez, on va s'écouter encore un peu de musique. Lizzo, Candlelight. Cléa, tu veux nous dire un mot là-dessus ?
Ben, j'ai découvert cette musique récemment et je la trouvais sympa, le rythme et tout ça.
Eh ben écoute, on va partager ça avec toi. Lizzo, Candlelight, c'est parti sur Radio Emma. In the candlelight, I'm gonna roll the dice. I cheat to roll a six, then I'm gonna make my wish. Cause in the candlelight, I can change my life. I roll a triple six, then I'm gonna make my wish. In the candlelight, I'm gonna roll the dice. I cheat to roll a six, then I'm gonna make my wish. Cause in the Candlelight de Lizzo. Merci Cléa, ça bouge. Effectivement, on l'écoute beaucoup cette chanson. Elle a la patate.
Ouais.
Elle a la pêche. On est de retour sur Radio Emma avec Michel Rubirola. On va continuer dans le parcours avec la question d'Alice.
Comment avez-vous décidé de faire de la médecine ?
Excellente question. Alors moi, depuis toute petite, ça me plaît. Mais ça me plaît. Quelque chose qui me plaît, c'était l'Afrique. Depuis que je suis petite, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous l'expliquer, j'ai une passion pour l'Afrique, je n'y suis jamais allée. Hein. Mais quand je suis revenue donc, de ma petite promenade en Italie, j'ai dit à mon père, si je rate le bac, je ne veux pas redoubler. Alors il m'a dit, ben, choisis. Donc j'avais préparé des concours, si on passait le concours, on pouvait ne... J'ai regardé des concours comme ça, mais qui ne m'intéressaient pas spécialement. Donc, j'ai passé Polytechnique féminine et puis un autre.
Enfin, pas rien en tout cas, déjà, c'est pas n'importe quel niveau, quoi.
Non, mais bon, eh bien, ça me plaisait pas.
Ouais.
Et il y avait rien qui m'intéressait. Mmh. Et puis, il me dit, sinon, qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai dit, je veux prendre une année sabbatique. Ça se faisait pas à l'époque. Il m'a dit, écoute, il faut que tu sois autonome. L'année sabbatique, tu la prendras à la fin de tes études, mais il faut d'abord que tu aies un métier pour pouvoir te débrouiller toute seule. Donc, j'ai dit, mais si j'ai le bac, je ferai médecine, parce que ça me plaît. Et je serai médecin bénévole en Afrique. Voilà.
Pas bénévole en Afrique, mais c'est pas...
bénévole en Afrique, parce que mon père, il m'a dit bénévole, on verra un peu plus tard. Mais en Afrique, bon, pourquoi pas, j'ai encore du temps. Hein.
Et pourquoi médecine ?
Parce que j'aime les gens, en fait. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les gens. Ouais.
Comme moi.
Ouais, c'est vrai ?
Pourquoi, comme toi, tu dis Alice, toi aussi, t'aimes les gens ?
Oui.
Et tu voudrais faire médecine, du coup, ou quoi ?
Non.
Tu sais ce que tu voudrais faire d'ailleurs?
Soit dessinatrice, soit scientifique, soit fleuriste.
Ah bah ouais, au moins, c'est très précis.
Je la considère comme une petite Barbie, parce que Barbie, elle fait tous les métiers.
Ah ouais, exactement.
Super.
C'est pas mal. Est-ce que tu penses aussi qu'avec ces métiers-là, tu pourrais aider les gens? Parce que tout est possible, hein. Tu sais que fleuriste, ça aide beaucoup les gens.
Bah, pour leur donner de l'amour.
Exactement. Et scientifique?
Pour faire des recherches, et j'adore la chimie et tout ça, j'aimerais bien être scientifique de chimie.
D'accord.
J'adore la chimie. Je pourrais passer mes journées à faire des expériences, à faire exploser la maison. C'est trop bien.
Et t'avais dit quoi? Scientifique, fleuriste ou?
Dessinatrice.
Ah oui, dessinatrice.
Elle dessine super bien.
D'accord.
C'est gentil.
Bon, en tout cas, franchement, c'est super mignon tout ça. Et c'est très beau aussi cette façon de faire de la médecine. On doit enchaîner rapidement, malheureusement. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Mais est-ce que vous avez le sentiment quand même, en ayant accompli au moins cette partie-là, ce domaine-là, sans être allé bénévole en Afrique, ok, mais d'avoir accompli justement un de vos rêves qui était d'aider les gens. Enfin, il y a cette démarche-là, quoi.
Ah oui, moi, ma vie, je l'ai réussi en faisant mon métier, le métier qui me tient à cœur. C'était ça, mon but.
Magnifique. Allez, on va écouter une autre chanson. Olivia Rodrigo. C'était un choix de Léa. Tu veux nous dire un mot là-dessus?
Eh ben, cette chanson, c'est la seule que j'écoute en ce moment. Cool. À chaque fois, je pleure dessus, donc.
Oh.
Mais aussi, non, tout va bien.
D'accord. Eh ben, écoute, super. On va s'écouter ça tout de suite. Olivia Rodrigo, Good For You, c'est parti.
Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do.
Olivia Rodrigo, good for you. Et forcément, je suis obligée de reprendre un petit peu la main puisqu'on n'a plus beaucoup de temps pour finir l'émission. On a été rejoints en studio par...
Élise.
Eh oui, Élise. Alors, nous sommes de retour avec Michèle Rubirola dans le studio de Radio Emma pour poser, Linda, ta question très rapide. Malheureusement, chaque question demande beaucoup de réponses, mais bon.
Comment avez-vous décidé de faire de la politique?
Ah, ben.
Et oui, ça fait partie du parcours.
Oui, depuis que je suis toute petite, je vis dans un milieu qui m'a enseigné des valeurs de justice sociale et puis d'humanisme. Et j'ai toujours défendu ces valeurs, voilà, tout le temps, tout le temps. Et dans tout mon parcours, même en étant en médecin, j'ai défendu ces valeurs, justice sociale, justice environnementale, puisque moi je suis très sensibilisée aussi à la place de l'homme au sein de la planète. Et je déplorais un petit peu tout ce qui se passait, et voilà tout ça. Donc, depuis toute jeune, j'ai milité pour la libération de l'avortement, de la contraception, puisqu'avant, c'était interdit. J'ai milité pour l'égalité femmes-hommes. Après, j'ai milité pour... j'étais antimilitariste, hein, je voulais pas qu'il y ait des guerres dans le monde. Et puis, après, j'ai milité aussi pour la planète. Et je faisais tout ça, en même temps je faisais mon métier, en même temps je faisais du sport. Puis un jour, je me suis fait très 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 mal au genou. Et puis un jour, il y a eu un certain Jean-Marie Le Pen qui est arrivé au deuxième tour
des élections. En 2001, absolument.
En 2001, et j'ai dit, bon, tu t'arrêtes de militer et tu vas t'engager pour éviter qu'il y ait des choses comme ça. Et puis comme je ne faisais plus de sport, ben, j'avais du temps libre. Donc je suis allée m'engager dans un parti politique et celui qui me correspondait le plus, puisque moi c'était la justice sociale et la planète et l'humain au centre de tout, ben je me suis engagée, ce qui s'appelait les Verts à l'époque. J'avais mis du temps à m'engager parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas trop branchés sur la justice sociale, mais dès qu'ils ont inclus la justice sociale dans leur parti, ben voilà, j'ai décidé de rentrer chez les Verts. Voilà.
Et c'est ce qui a donc motivé tout votre parcours en politique.
Voilà.
Jusqu'à arriver à la mairie de Marseille, qui est encore une fois un moment épique cet été. C'était fou. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous, quand même, non ?
Oui.
Oui, quand même, hein, Cléa. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose. Merci beaucoup pour cette réponse. Marseille était dans son adolescence et maintenant, elle doit grandir.
Voilà, et on l'accompagne.
Alors, justement, tiens, à propos d'adolescence, Pauline, vas-y.
Est-ce que votre adolescence a eu un impact sur votre parcours professionnel et est-ce que vos souvenirs d'adolescence inspirent votre vie actuelle ?
Moi, j'ai des fois, bon, c'est vrai que j'ai grandi, que j'ai vieilli, mais enfin, j'ai toujours, comme on dit, la folie dans la tête et les rêves plein la tête. Et je pense que ça a été, mon adolescence, ça a été fondamental pour moi parce que, bon, c'est vrai que j'ai fait un peu des crises, mais ce qu'on appelle les crises d'adolescence, et c'est normal, on a besoin de ça pour grandir, on a besoin de ça pour se séparer de ses parents. Mais en fait, je pense que je me suis vraiment engagée à partir de ce moment-là vers un chemin qui a toujours guidé mes pas, c'est-à-dire d'abord être fidèle à des valeurs. Pas de compromis, voilà. Et rester fidèle à ce qu'on est. Et moi, je pense que j'ai pas trop déraillé. Je crois que la personne que je suis adulte, ben, je suis contente de me voir dans la glace.
Ouais, c'est vrai que quand on dit est-ce qu'il reste un petit peu de l'adolescence que vous étiez dans l'adulte que vous êtes devenu, est-ce que ça, c'est effectivement...
Oui, je crois que vous avez eu la réponse tout à l'heure, oui, il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut avoir toujours des rêves dans la vie et toujours avoir envie de faire. Et moi, j'ai toujours envie de faire.
Ouais.
J'ai toujours envie de faire plein de choses. Je ne suis pas monotâche, je ne suis pas monopensée. Voilà, j'ai envie.
Ouais.
Puis j'ai envie de découvrir tout le temps. Et...
Magnifique. Conclusion à cette très jolie émission et très courte. On va se quitter avec le choix donc, musical de Alice, donc In My Mind. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus ?
Non, je vais juste chanter.
Waouh, magnifique. En tout cas, on vous remercie infiniment, Michel Rubirola, d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
Et merci à vous de m'avoir invité.
On se quitte avec ça. Merci à tous d'avoir participé. À la semaine prochaine. Donc, In My Mind, c'est parti. Dinoro et Gigi D'Agostino. We'll be right back.
Un